Paul Sécure, épisode technique. Je suis accompagné de Jordan. Est-ce que tu peux te présenter?
Bonjour à tous et à tous. Je m'appelle Jordan Théodore. Je suis actuellement VP Product Engineering chez Glimpse. Et je suis un ancien analyste forensic et threat hunter depuis plusieurs années.
Et pour notre chance, t'es même basé au Canada maintenant, qu'on va un peu pour suivre les traces de Frédéric.
Exactement. Je suis arrivé il y a 2 mois à Toronto.
Tout neuf, en plein hiver. Puis là, j'imagine que tu as eu, là, au moment où on enregistre, il y a eu des tempêtes au Canada. J'imagine que tu as goûté de façon authentique.
C'est vraiment l'authenticité pour le coup. C'est la première fois que je viens dans un pays froid. Les moins 20 degrés font quand même mal.
Oui, ça pique. ça pique beaucoup. Moi, je trouve que ça pique moins que le froid breton, mais c'est une question de perception. Tu viens de nous parler de Yara, qui est une forme de standard qui a été élaborée avec le temps pour justement se donner une façon commune de partager des informations pour les SOC, notamment pour les menaces et les indicateurs d'attaque. Je vais te laisser présenter qu'est-ce que c'est, d'où ça arrive, puis pourquoi, puis bon, on va couler avec ça.
Exactement. Yara a été un outil qui m'a été très utile dans ma carrière. Et c'est un outil qui, quand on regarde de loin, semble juste être un moyen de faire des signatures, des règles de détection, etc. Mais on a beaucoup de cas d'usage et c'est un outil qui facilite la vie des analystes, que ce soit côté SOC ou CERT. Yara, pour la petite histoire, ça a été créé par VirusTotal au fil des années 2000. VirusTotal qui est, vous le savez peut-être, une plateforme de Google qui permet d'analyser les fichiers URL grâce à des moteurs antivirus. L'idée d'Yara, derrière Yara, était toute simple. C'est d'offrir un moyen plus souple de définir des signatures pour identifier des malwares ou des familles sans être coincé par les formats propriétaires des antivirus classiques. Donc c'est vraiment une problématique côté VirusTotal qui utilise principalement des moteurs antivirus propriétaires.
Okay, donc, de ce que j'en comprends, c'est VirusTotal, maintenant Google, pour faciliter leur propre travail, ont établi un standard qui transcende la détection de codes malicieux, qui, à l'époque, que de codes malicieux, mais qui servait justement d'avoir une signature unique et universelle pour arriver à ça.
Exactement. Un moyen simple pour tous les analystes du monde entier de créer leur propre signature pour répondre à leurs différents cas d'usage sans être bloqués par les formats propriétaires.
Est-ce que ça a été, question connexe, ça a été adopté par les 10 fournisseurs d'antivirus avec le temps ou sont restés principalement avec leur modèle propriétaire?
C'est une très bonne question. C'est resté sur les modèles propriétaires, mais on va retrouver Yara dans divers outils de sécurité de nos jours. On va les retrouver côté EDR, notamment les gros EDR du marché intègrent Yara pour pouvoir aider les analystes à ajouter leur règle custom. On va les retrouver côté CIEM dans divers outils de sécurité.
Ah, très intéressant. Et à partir de ce démarrage-là, de ce que VirusTotal a créé la base, parce que je sais qu'il y a eu plusieurs versions, puis même de façon relativement régulière, il y a de nouvelles versions. Donc, ce standard-là a connu une certaine évolution depuis sa création.
Exactement, au tout début, c'était dans les années, j'étais encore étudiant à cette époque-là, je dirais 2013-2014, lorsque j'étais à la fac et on étudiait justement la cyber. Il y a eu la version 2.0 qui a été postée par VirusTotal sur GitHub. Donc c'était une version très simple, ça permettait de détecter des chaînes de caractères dans des binaires ou des scripts. Petit à petit, ils ont ajouté différentes fonctionnalités. La possibilité de créer d'utiliser des motifs hexadécimaux, l'amélioration des fonctions logiques, l'ajout de nouveaux modules pour analyser spécifiquement certains formats de fichiers, tout ce qui est PE pour les exécutables Windows, ELF pour les Linux, du macOS, etc. Et du coup, on a eu des grosses versions. La 2.0 pour les débuts. On a eu la 3.0 avec des modules avancés comme les PE et la 4.0 plus récente pour l'optimisation. Ici, on est vraiment sur de l'optimisation des performances. Et on est aujourd'hui en 4.5. C'est la dernière version qui a été sortie en septembre 2024.
OK. À partir de ça, puis là, tu mentionnais beaucoup d'éléments de statique, c'est-à-dire qu'on a des champs de caractère, on a des informations qu'on va essayer de repérer. Est-ce qu'on est capable d'avoir des opérateurs logiques aussi dans ces règles IRA-là pour dire qu'il y a une addition de si tel et tel et tel élément ensemble sont présents, donc il y a, sinon il n'y a pas?
Exactement. La structure d'une règle IRA est assez simple. On a une partie métadonnées. En gros, tu y mets des informations générales, comme l'auteur, la description, la version, des références. En termes de bonnes pratiques, on va ajouter les références par rapport à la règle de détection, potentiellement des hashes, des fichiers de référence. Encore une fois, c'est un peu la carte d'identité de la règle. Ensuite, on a une section strings où on va placer les chaînes de caractères utilisées pour la détection. Ça peut être des chaînes de caractères liés à du texte, des motifs hexadécimaux, des expressions régulières. L'important, c'est vraiment d'être ni trop large, ni trop précis dans la détection pour détecter ce qu'on veut. Et enfin, on a les conditions, ce dont tu parlais. On a la partie cerveau de la règle, je dirais, dans laquelle on va avoir différentes conditions. Any of them, all of them. Ça peut être seulement 5 de certaines conditions. Et en gros, on va pouvoir définir la logique de match de la règle.
C'est quand même très puissant, de ce que tu en relates. On a quand même une façon, une représentation. Ces règles-là s'écrivent dans quel formalisme de au-delà du fait qu'il y a IRA à la règle, mais c'est-tu un JSON, c'est-tu un YAML, c'est-tu quel genre de format dans lequel on va retrouver ce genre de fichier-là?
Ça va être plutôt... dans un format très proche du YAML. C'est un format vraiment propriétaire. Le format IRA, on va avoir nos accolades. On va avoir, on retrouve des similitudes avec le JSON aussi. On va avoir nos accolades, nos trois sections, méta, strings et conditions, et la fermeture de l'accolade.
Donc, une définition, il y a une écriture très rigide quand même à cette règle-là, même si elle est à sourvette essentiellement.
Exactement, on a quelque chose qui est assez rigide. On peut mettre tout ce qu'on veut dans la partie méta, par exemple. On peut dire, OK, je vais ajouter un nouveau champ, niveau de menace, etc. Est-ce que c'est connu? Est-ce que c'est une menace interne ou non? On peut mettre tout ce qu'on veut dans la partie méta, mais on aura toujours nos trois sections, méta, strings et conditions.
Est-ce que c'est très difficile d'écrire des règles IRA, puisque tu as quand même un peu d'expérience dans le domaine, puis tu as l'air d'avoir une certaine affection pour cette façon-là d'écrire des règles?
Alors, d'un point de vue développement, la syntaxe d'une règle IRA est très simple, donc un peu tout le monde peut la faire. Par contre, le problème principal va être vraiment sur la partie technique de la règle, où là, on va avoir besoin plutôt de compétences de reverse ou de CTI pour créer des règles qui vont matcher la bonne famille dont on a besoin. Surtout que dans ces règles, on va vouloir l'optimiser, utiliser des chaînes de caractères potentiellement uniques. Donc, il va avoir besoin de compétences pour extraire des clés de registre, potentiellement des fautes de typo dans les fichiers ou binaires. Ça peut être des chemins de PDB, ça peut être des mutex, un peu tout ce qu'on veut d'un point de vue technique. Mais là, on va avoir besoin de compétences de reverse si on veut le faire soi-même. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que on a pas mal de sources depuis la sortie de la version 2.0 sur GitHub. On a pas mal de GitHub avec des experts en détection qui fournissent des règles préfaites. Donc vous allez pouvoir retrouver, par exemple, si vous tapez Awesome Yara sur GitHub, vous aurez une liste de différents sous-GitHub dans lequel il y a des challenges, par exemple. Il y a le 100 Days of Yara, dans lequel chaque année, des experts cyber fournissent sur les 100 premiers jours de l'année des règles Yara. vous allez retrouver aussi les GitHub des gros fournisseurs de CTI ou autres, comme AlienVault, AnyRun, Burp. On aura pas mal de règles Yara disponibles pour la communauté, sans avoir besoin d'être expert en reverse.
Ça demande une certaine expertise. Tu mentionnais qu'il y a de moins en moins, en tout cas de ta perception, de gens qui mettent du temps pour faire du reverse, puis ça demande une certaine compétence, mais ça semble être un peu moins présent dans les dernières années que ça l'a déjà été.
Exactement. De ce que j'ai pu voir, en fait, surtout dans la partie SOC du métier, en général, on arrive analyste niveau 1, on va faire beaucoup de ticketing, on n'a pas beaucoup la place pour la montée en compétence. On arrive niveau 2 et là, on gère beaucoup plus les incidents. Et là, il est vraiment important, à côté, de continuer de se former, notamment en reverse, qu'on n'a pas forcément en cours, qu'on apprend surtout dans le contexte pro. Moi, je l'ai surtout appris lors de mes expériences pro dans divers certes. Et ça va être, c'est vraiment une compétence importante si on veut aller plus loin dans l'expertise technique.
Oh, tout à fait, je suis d'accord avec toi. Moi aussi, pour le court moment dans ma carrière, c'est vraiment pro. J'ai jamais pris ça sur les bancs d'école. Surtout que moi, les bancs d'école étaient plus vieux, étaient plus en bois à l'époque. On n'était pas toujours au même moment, mais beaucoup moins, effectivement, de ce genre de choses-là. J'ai oublié de poser la question, peut-être parce qu'au préalable, Yara, c'est vraiment pour la détection de fichiers qu'on a, c'est pas des règles plus larges, on va mettre dans un IDS, on va mettre dans d'autres éléments.
Ça aurait été vraiment bien de pouvoir ajouter Yara dans tout ce qui est IDS, mais on a vraiment l'IDS qui fait sa partie réseau. Yara va être surtout utilisée sur les fichiers, mais aussi sur de la mémoire. On a quelques projets dans lesquels Yara est utilisée pour chercher des patterns assez spécifiques en RAM. Donc, ils essayent, en tout cas, la communauté essaye de pousser l'utilisation de Yara pour plein de cas d'usage.
Ouais, bah avec une augmentation quand même assez importante du fileless ou toute cette famille ou cette approche-là ou le living of the land qui sont de plus en plus difficiles à intercepter avec les moyens classiques, notamment comme ce que Yara donne comme moyen. C'est important de pouvoir pivoter, de continuer à aller. Ça, parce qu'il demeure que ces malwares-là demeurent dans un contexte avec des patterns qui leur sont propres, dans lesquels ces règles-là demeurent pertinentes à les détecter puis à les bloquer. Là.
Exactement. Exactement. Et justement, en parlant de règles, j'avais mentionné quelques sources côté GitHub, mais il y a une source que j'apprécie particulièrement, c'est le GitHub de Yara Forge. Donc c'est un projet qui a été créé il y a de là pas mal d'années, qui est un projet de standardisation de règles Yara et d'assurance qualité sur ces règles. En fait, Yara Forge va récupérer les règles Yara de diverses sources de GitHub connues et va ajouter de la metadata, par exemple, va faire un check de qualité, transformer un peu la règle et créer 3 package que les analystes peuvent utiliser, tester évidemment sur des jeux de données avant de les mettre en prod, mais surtout les mettre en prod facilement. Donc il y a 3 packages, on a un core, un extended et un full. Et de mémoire, avec la partie full, on a 13 000 règles Yara qualifiées et checkées.
Wow, c'est quand même un très grand répertoire de règles. Et de ton historique, puis en plus chez Glimpse, c'est un peu le cœur de votre mission. La création de ces règles-là, on a entendu, en tout cas moi, de le fait que je suis un peu plus éloigné, on parlait beaucoup de mutation des codes, la création de toujours de nouveaux codes spécifiques pour chacune des cibles. Ces règles-là, est-ce qu'elles s'adaptent bien ou est-ce qu'il y a des préoccupations particulières ou des façons de les écrire qui nous permettent justement de transcender des mutations qui doivent quand même de trouver un peu comme un vrai virus, comme la COVID l'a été. Ces mutations, de trouver le bon vaccin à chaque fois qui est quand même capable de l'attraper indépendamment de sa mutation.
Effectivement, c'est difficile d'avoir une règle qui va matcher assez bien les familles de malware ou autres. Ces mutations, comme le COVID, Tout simplement parce que il nous faut assez de samples, il faut assez de personnes qui vont analyser les ce qu'il y a de commun entre ces différents samples de la même famille et créer des règles avec les bonnes conditions, comme on disait initialement. Ça peut être basé sur les propriétés du fichier, des chaînes de caractères uniques dans le fichier, certaines chaînes de caractères non uniques. Et justement, effectivement, chez Glimpse, on a une IA qui détecte les variants de malware basées sur ce qu'on appelle du concept code. Donc une fois qu'on a un échantillon, par exemple, de COVID-19, on est capable, à partir de cet échantillon, de détecter les variants. Le variant breton de COVID, le variant canadien de COVID, on est capable de tous les reconnaître par rapport à des concepts qu'ils ont en commun. Par concept, pour faciliter la compréhension, on peut voir ça comme des fonctions. L'utilisation d'une fonction qui va, par exemple, changer le fond d'écran pour un ransomware assez particulier. Prenons par exemple pour la famille Lockbit. Nous, on va le reconnaître comme étant du Lockbit, même si on a une nouvelle version dans 2 mois, dans 3 mois, la logique sera la même. Et justement, notre solution, Glimpse Malware, permet de générer des règles IRA basées sur ce moteur d'IA, qui est plutôt unique au monde, et de matcher du coup des familles entières.
Ouais, c'est ça, c'est super chouette parce que c'est justement une des courses, puis l'ancien monde des antivirus, c'était justement ça. Juste de recompiler faisait que les antivirus n'étaient plus capables de le détecter. Donc, on est dans un univers où c'est de plus en plus difficile de naviguer dans ce type de choses-là. Tu parlais aussi, parce que t'en écris, puis Glimpse en génère de façon avec du l'intelligence artificielle, certaines astuces pour écrire des règles qui sont les plus efficaces possibles et qui ont le meilleur rendement possible justement pour les SOC qui vont prendre le temps de faire le reverse nécessaire pour des codes qui leur sont somme toute dédiés. Là.
Il y a effectivement des bonnes pratiques dans la règle IRA. Tout d'abord, il y a un point qui est souvent négligé au-delà de la qualité de détection, c'est vraiment la partie métadonnées de la IRA. Et comme IRA est utilisé dans des équipes, les équipes SOC, les analystes côté CERT aussi, ou CISERT, eh bien il faut assez de documentation, de métadonnées pour permettre une bonne compréhension de la règle. Du coup, en termes de bonnes pratiques, je dirais ajouter des références, des articles, peut-être avec des reverses déjà effectués. On utilise beaucoup des blogs de grosses sociétés qui ont des très bons reverseurs et qui font des bonnes analyses CTI. Par exemple, l'unit 42 de Palo Alto fait des bons reverses dans lesquels on va retrouver des bons éléments qui peuvent être utiles pour créer des règles IRA. Et bien, ce qui est vraiment important, c'est de les noter, de noter d'où proviennent les informations dans la partie métadonnées, ainsi que le sample qui a été utilisé pour forger la règle. Au sein de la partie vraiment plus technique sur les chaînes de caractères qu'on va ajouter dans la règle et les conditions qu'on va utiliser, il y a toujours un combat au niveau des équipements de sécurité. Les EDR ont plutôt peur de faire du faux négatif, donc balayent large en termes de détection. Les antivirus, c'est plutôt précis. Ça va être une signature relativement précise ou une heuristique précise, mais dans lequel on aura très peu de faux positifs, mais beaucoup plus de faux négatifs, parce qu'on n'aura pas vu. C'est vraiment un travail d'équilibre, et dans tous les cas, il y a des bonnes choses à ajouter en termes de chaîne de caractères. J'avais parlé des user agents qui peuvent être rares, peut-être caractéristiques d'un binaire ou d'une famille. Et auquel cas, on peut utiliser cette chaîne de caractères. Ça peut être les fautes de typo. Ça peut être vraiment, des fois, les attaquants ont un peu beaucoup d'ego, je dirais, et ajoutent une petite signature dans leur binaire. Je l'ai vu, par exemple, sur la famille Kaiten ou Tsunami, il y a quelques mois, dans lequel une fonction s'appelait Tsunami. Et on avait une chaîne de caractères en japonais qui disait Kaiten wa Goraku, qui était la marque de fabrique. Il avait un peu trop d'ego, il aime bien signer ses binaires. Et ça, c'est marquant pour nous. Et on va pouvoir le réutiliser dans nos règles.
Très, Très intéressant. Et est-ce qu'il y a d'autres astuces? Parce que là, je pense que je ne voulais pas te couper. Là.
En termes de conditions, pour la partie conditionnelle, comme j'avais dit précédemment, on peut choisir soit de matcher une des différentes règles, on peut matcher toutes les règles ou une partie. Ce qui peut être vraiment intéressant, c'est d'ajouter des conditions précises comme liées à la taille des fichiers, un offset au sein du fichier, l'utilisation de caractères uniques, et de jouer cette règle, ces règles-là, sur des jeux de données assez conséquentes et qui permettent d'affiner les chaînes de caractères après. C'est vraiment ce qu'on va retrouver assez régulièrement. Vraiment tout ce qui est offset dans le fichier, taille, c'est vraiment des marquants qui réduisent le taux de faux positifs, par exemple.
Ouais, j'avais pas posé la question dans les éléments de condition, par exemple, mais est-ce qu'on est capable de passer, parce que tu mentionnais que les antivirus, c'est très précis, les AI ne veulent pas aller trop large, d'avoir des règles avec des conditions qui nous amènent à, on prend large, puis on descend, puis on raffine jusqu'à temps qu'on ait quelque chose qui nous amène au bon endroit, ou c'est pas à la même cette règle-là, c'est dans d'autres contextes qu'on va pouvoir raffiner à même la règle qui va... La règle, de fond, va capter large au début puis va descendre. Est-ce que c'est une notion qui existe ou c'est juste dans ma tête?
Alors là, ça va être vraiment par rapport à mon utilisation. Je n'ai toujours pas vu de règle vraiment en entonnoir, comme je vais l'appeler. Du coup, quelque chose de large, puis plus précis par la suite. Mais au niveau de la documentation d'IRA, on est vraiment sur des conditions très... ça peut être très, très complexe. Donc, on va faire les conditions strings A ou B et strings C ou D et autre chose. Par exemple, on a des inequal, on a des... assez large. On peut pointer des offsets ou des adresses virtuelles directement. On peut demander à ce que ça matche, par exemple, une taille de fichier, un entry point carrément dans un exécutable. Donc, il y a moyen, avec ce qu'on nous donne, d'être précis.
Est-ce qu'il y avait d'autres astuces? Parce que j'ai encore coupé sur... J'ai dévié sur d'autres choses.
Alors, comme ça, pas vraiment. Je pense avoir fait le tour au niveau des astuces, vraiment pour la base de IA.
Est-ce qu'il y avait d'autres choses? On a fait un bon tour. En tout cas, moi, ma perception, est-ce qu'il y a d'autres éléments de Yara qu'on n'a pas abordé, que t'aimerais aborder?
Pas vraiment, peut-être parler, mais justement, là où vous pouvez trouver Yara naturellement dans vos outils de sécurité. J'avais parlé des EDR ou des SIEM qui utilisent Yara. On a une partie ligne de commande dans laquelle vous allez pouvoir utiliser Yara directement depuis votre terminal pour scanner des fichiers. Il y a des librairies en Python qui permettent d'écrire des scripts qui compilent les règles Yara et scannent des milliers de fichiers d'un coup. Mais aussi les sandbox. Là, on a par exemple, je vais parler de la sandbox open source qui est sur GitHub, Cape, dans laquelle on va pouvoir avoir des règles Yara à l'intérieur.
Est-ce que ça fait le tour des recommandations?
Oui.
Oui. Super. On va mettre dans les show notes pour ceux que ça intéresse ces informations-là, justement, pour que vous puissiez y accéder. Je te remercie énormément. C'est très intéressant. Même si ça a l'air banal, un format comme ça est quand même essentiel au fonctionnement des SOC, les sophistiqués, si on veut dire, ou les SOC modernes, pour justement les aider à cheminer puis à aller. Plus vite que ce que les fournisseurs sont en général capables de fournir même. Je suis vraiment très, très, très heureux d'apprendre qu'il y a tant de ressources open source de gens qui contribuent à des informations de IOC, CTI et ainsi de suite, justement pour contribuer à l'ensemble de la collectivité, parce que c'est un problème qu'on avait beaucoup en cyber, cette espèce de collaboration plutôt mitigée. Donc, je trouve ça très, très heureux comme situation. Sur ça, ben, je te remercie pour ta contribution, puis on se dit à la prochaine.
Je vous remercie.